toi qu'on a parlé.
Bon. Donc là, Ilou Nishmat Morenu Rabbeinu, Rav Yehuda Léon Ashkenazi, je voudrais mettre en évidence un aspect de l'enseignement du Rav Ashkenazi Manitou. On pourrait effectivement, quand on parle de l'enseignement de Manitou, parler pendant des heures et des heures, il n'y a aucun problème, mais je voudrais, en son honneur, mettre en évidence un point de sa pensée qui n'est pas toujours mis en évidence et qui me semble important. C'est l'idée de précision. Le Rav Ashkenazi, aussi bien de par son caractère personnel, mais par la fidélité à l'enseignement qu'il a reçu de ses maîtres, savait à quel point il était important, quand on parle de Torah, comme on parle d'ailleurs de toute chose, mais surtout de Torah, d'être précis dans la formulation, parce que parfois, un détail, une virgule, une petite différence, eh bien, ça entraîne une différence fondamentale, ça peut même amener parfois à une déviation totale par rapport à l'enseignement de la Torah. Et là, je voudrais, rappeler quelques petites phrases que disait Manitou à ce propos et qui, à mon avis, sont fondamentales. Tout d'abord, un enseignement qui, a priori, semble tout à fait banal. Manitou avait l'habitude de dire, quand on veut savoir ce que dit la Torah, eh bien, il faut lire la Torah. Et bon, ça semble tout à tomber sous le sens, mais dans la réalité du monde rabbinique, ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, le fait, par exemple, que l'on est habillé d'une manière rabbinique, mieux que moi, que l'on a une grande barbe, plus longue que la mienne, et ça donne le sentiment que ce que l'on va dire, que son opinion personnelle, c'est identique à l'opinion de la Torah. Il faut un travail très important de savoir surmonter cette tendance naturelle pour avoir l'humilité, la hanava nécessaire, pour voir que, est-ce que la Torah dit vraiment ce que l'on voudrait bien qu'elle dise. Et parfois, elle ne dit pas ce qu'on voudrait qu'elle dise, elle dit autre chose. Et tout le problème de savoir, est-ce que parce que l'on n'est pas d'accord intérieurement avec un enseignement de la Torah, on a le droit de la transformer? La réponse est évidemment non. Et à ce propos, il y a aujourd'hui dans le discours public de Torah, on emploie souvent des expressions toraniques qui ont un effet désastreux. Je voudrais vous en citer deux, que j'ai pu constater souvent d'ailleurs dans mes rencontres avec des communautés juives de France, à l'exception de celle-ci. On emploie tout d'abord une très belle expression, mais totalement déviée de son contexte. Elou ve'elou divrei Elohim Chaim. Alors, Elou ve'elou divrei Elohim Chaim, ça veut dire ceci, les paroles de ceci et les paroles de cela sont les paroles du Dieu vivant. Ce qui veut dire, on peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, dès qu'on va étudier un texte un peu gênant, parce qu'il bouscule nos habitudes de pensée, on va dire, oui, de toute façon, on peut dire le contraire. Et puis même celui qui a dit cette chose-là, c'est très bien qu'il a également l'opinion de l'autre, il en tient certainement compte. Alors, ça devient une sorte de salade, une sorte de bouillabaisse de Torah, mais ce n'est plus la Torah. Alors, il y aura beaucoup d'enseignements, on citera Rabbi un tel, Rabbi autrement, mais finalement, ce n'est pas la Torah. Il faut savoir, quand la Gemara nous dit « Elou ve'elou divrei Elohim Chaim », je tiens à ce propos à faire deux remarques. Tout d'abord, « Elou ve'elou divrei Elohim Chaim », mais ça veut dire qu'il y a également des choses qui ne font pas partie des enseignements de la Torah. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit la fameuse expression « Shivaim panim la Torah », il y a 70 facettes dans la Torah, eh bien c'est limitatif. Il n'y a que 70 facettes de la Torah, il n'y en a pas 71. Et donc on risque de donner un enseignement de Torah qui appartient à la 71e catégorie, ce n'est plus de la Torah. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y avait les marlokot, les débats entre Beth Hillel et Beth Shammai, mais il y avait également les débats entre les Sadducéens et les Pharisiens. Or, les Sadducéens qui interprétaient la Torah ne font pas partie de la tradition légitime. Et donc, il est très important de savoir diagnostiquer une opinion pour savoir si elle est vraiment celle de la Torah ou si ce n'est pas par hasard une nouvelle hérésie. Et ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, comme le disait Manitou dans un de ses textes dans le Kimitzion, il disait parfois l'air de compassion hypertrophiée, religieuse hypertrophiée, cache mal le manque d'authenticité. Et il y a donc une authenticité de la Torah qu'il faut avoir le courage de retrouver et qui parfois est enterrée sous de nombreuses couches de cendres de galoute. Et il faut faire l'effort de retrouver. De plus, le même texte de la Gemara qui nous dit « Elou ve'elou divrei Elohim Chaim » fait remarquer qu'il y a une halakha. On dit, à propos de Beth Shammai et de Beth Hillel, la maison d'Hillel et la maison de Shammai, ceci et ceci sont les paroles du Dieu vivant, et la halakha est comme Bet Hillel. C'est-à-dire que bien que les paroles de Bet Shammai sont des paroles du Dieu vivant, mais il y a une halakha. Il y a finalement l'opinion qui va prévaloir, et celui qui affirmerait que puisque les paroles de Bet Shammai sont des paroles du Dieu vivant, on pourrait donc en tenir compte au niveau de la halakha, se trompe. Et là, c'est aussi quelque chose qu'il faut remettre en place. Autre expression qui est souvent employée dans le discours rabbinique, c'est « En mukudam umeohar va Torah ». De toute façon, il y a un désordre, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, donc on peut dire n'importe quoi. Quand on voit qu'un texte contredit un autre, on dira de toute façon ça s'était dit avant, ça s'était dit après. Et là, je voudrais rappeler ce que disait Manitou à ce propos. « En mukudam umeohar va Torah ». Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, mais il y a un ordre chronologique dans le Sefer Torah. Et la différence est fondamentale. La Torah, en tant qu'entité métaphysique, dépasse le temps. Elle n'a pas d'ordre chronologique. Toutes les paroles de la Torah sont vraies à tout moment et à tout lieu. Mais ça, c'est dans le métaphysique. Dans la réalité concrète, il y a un ordre des paroles de la Torah, c'est l'ordre du Sefer Torah. Et il faut bien faire la différence donc, entre la Torah en tant qu'entité métaphysique et la Torah telle que manifestation dans ce monde. Par exemple, cette idée qu'il y aurait tout dans la Torah. On entend souvent cette chose-là. Les gens disent « il y a tout dans la Torah ». Alors, si il y a tout dans la Torah, ça voudrait dire que tout, c'est de la Torah. Alors, il n'y a plus de sacré et de profane. Il n'y a plus de Kodesh et de Hol. Ça ne tient pas debout. Alors, Manitou faisait toujours sa différence entre « ha-Torah », la Torah d'en haut, et « Torah » sans l'article, qui est ce que nous étudions, nous. Et ce n'est pas du tout, en fait, la même chose. Et d'ailleurs, il y a un enseignement du Gaon de Vilna qui dit c'est quoi En mukdam umeohar batorah. Manitou aussi amenait souvent cet enseignement. La première fois qu'il est dit En dans la Torah, c'est-à-dire la première fois que le mot il n'y a pas apparaît dans la Torah, et la dernière fois que ce mot apparaît dans la Torah, eh bien c'est ça toute la Torah. Alors, vous avez une mémoire phénoménale certainement, et donc vous savez que la première fois que le mot En apparaît dans la Torah, c'est pour nous dire il n'y avait pas d'homme. Fea Adam Aïn. Il n'y avait pas encore d'homme. L'arbre d'état Adama pour travailler la terre, et les Chachamim de nous dire l'homme n'était pas encore là pour faire la prière, pour que la pluie tombe. Et donc, la Torah commence par une constatation importante. L'homme n'est pas encore existant, il n'a pas encore mérité son existence. Et puis, il faut arriver à la fin de la Torah. En Kael Yeshurun. Il n'y a pas comme Dieu, ô Yeshurun. Yeshurun étant le nom poétique d'Israël. Et à nouveau, interprétation des Chachamim. Enkael, il n'y a pas comme Dieu. Et pourtant, Mikael, mais qui lui ressemble un peu? Yeshurun, c'est Israël qui lui ressemble. Et donc, il faut faire un travail pour passer de l'absence d'humanité à l'humanité pleinement réalisée. En fin d'histoire, il s'agit évidemment d'Israël qui porte cette mission avec lui. À nouveau, à propos de cette différence entre Torah et Sefer Torah, l'enseignement de Manitou retrouve aussi ici celui du Zohar. Le Zohar nous dit, par exemple, à propos des choses qui dépendent du hasard. Hakol talui bamazal. Tout, on peut traduire, dépend et suspendu au mazal, à la chance. Et le Zohar ajoute, afilu sefer Torah sheba echal. Même le sefer Torah qui est dans le sanctuaire, ce qui nous fait peur. Comment la Torah dépendrait des contingences de la réalité physique? Et alors Manitou faisait remarquer au nom du Zohar, au nom du Gaon de Vilna sur le Zohar, afilu Sefer Torah, même le Sefer Torah dépend des vicissitudes de la réalité. Mais la Torah, pas le Sefer Torah, elle ne dépend pas. Donc ici, si on ne fait pas attention à cette précision, eh bien, on risque de se tromper sur l'authenticité de la Torah. Autre domaine dans lequel nous voyons cette importance de la précision, et ça c'était très caractéristique de l'enseignement de notre maître, c'est à propos de la liturgie synagogale par exemple. Vous savez qu'il y a souvent cette tendance à bâcler la prière. Et quand on la bâcle, eh bien, la musique se transforme. Eh bien, ce n'est plus le même air. Et ce n'est plus porteur des mêmes intentions, des mêmes kavanotes. Et Manitou faisait toujours remarquer que dans la liturgie traditionnelle, celle qu'il recevait de ses ancêtres, celle des Oranais, il y a des moments dans la prière où le chazan allonge ses paroles et des moments où il va vite. Et il faisait remarquer que quand on connaît les intentions des kabbalistes dans la prière, eh bien, ça les kavanotes des kabbalistes, les moments où ils ont des réflexions profondes concernant la divinité, eh bien, ça se trouve dans ces moments où la prière s'allonge, où l'on prononce les mots lentement. Parce que c'était pour laisser le temps aux kabbalistes d'avoir leurs kavanotes Ceci, évidemment, dans toute la pudeur et toute la discrétion possible, contrairement à l'étalage qui est fait aujourd'hui d'enseignement de Kabbalah, comme disait Manitou, aujourd'hui, on va dans un magasin, et on demande tant et tant de kilos de Kabbalah. Alors que ça, traditionnellement, ça se fait dans l'intimité des familles, l'intimité de son maître, ça ne se fait pas en grand étalage. Dans l'idée de précision qu'on trouve chez Manitou, il y a également l'idée de convergence. Les idées sont véritables quand de plusieurs vérités convergent en une seule. Par exemple, il y avait, Manitou vous a remarqué, il y a des organisations juives qui s'occupent beaucoup des juifs. Ça s'appelle par exemple le Congrès juif mondial. Il y a des organisations qui s'occupent beaucoup d'Eretz Israël. Ça s'appelait l'organisation sioniste mondiale. Ça s'appelait également la Sochnout. Et puis, il y a ceux qui s'occupent beaucoup de Torah. Ça s'appelle les yeshivot. Mais où se trouve l'intention du Créateur? Est-ce qu'on peut la trouver dans une seule de ces trois branches à la fois? La vérité, c'est qu'on ne peut connaître le Créateur du monde que s'il y a convergence des trois à la fois. Torah Israël, Am Israël et Eret Israël, et évidemment, tout le peuple juif et non pas une partie, toute la Torah et non pas une Torah tronquée, et donc évidemment, tout Eret Israël. Parce qu'un Eret Israël tronqué, ben, c'est plus Eret Israël. Et c'était évident donc pour Manitou qu'il fallait donc la fidélité à l'intégralité de ces trois dimensions pour que l'on puisse savoir véritablement quel est notre rôle et véritablement ne pas y manquer, ne pas trahir notre rôle par rapport aux nations. Et à ce propos, Manitou a mené un enseignement du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï qui faisait remarquer que la gématria, la valeur numérique des trois personnages bibliques, Yaakov, Moshe et David, si vous prenez la valeur numérique de ces trois-là, Yaakov plus Moshe plus David, ça vous donne Israël. Et pourquoi ces trois-là, justement? Parce que Yaakov était le fondateur du peuple, Moshe était celui qui a donné la Torah, et David celui qui a donné la terre. Ça veut dire quoi, donner la terre? Ben, ça veut dire que c'est lui qui en a fait une entité politique souveraine, un État. Et donc, on ne peut avoir Israël que s'il y a Yaakov, Moshe et David. Et là, je ne peux pas résister au désir de faire une petite remarque à ce propos. La Gemara, dans le traité de Baba Kama, nous dit qu'il y a quatre personnages dans l'histoire qui sont morts sans péché. On dit « Metu be'aitio shel nachash », ils sont morts à cause du serpent, c'est-à-dire le serpent du Gan Eden, depuis que le serpent a convaincu l'homme de manger, et la femme, de manger du fruit défendu, eh bien, la mort a été décrétée pour tout le genre humain, et donc, même si on n'a pas péché, on doit mourir. Et le Talmud nous dit, très souvent les gens pêchent, mais il y a quatre hommes sur terre qui n'ont pas péché, et qui sont-ils? Eh bien, ils sont Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, Yishai, le père de David, et Kilav, le fils de David. Alors, si on cherche un point commun à ces quatre personnages, on se rend compte de quelque chose de très important. Ils sont des pères ou des fils de personnes importantes. C'est-à-dire, Binyamin, le fils de Yaakov, mais on ne parle pas de Yaakov. Amram, le père de Moshe, mais on ne parle pas de Moshe. Et Yishai et Kilav, père et fils de David, mais on ne parle pas de David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, implicitement, si on dit que ceux-là n'ont pas péché, ça veut dire que Yaakov, Moshe et David ont péché. Mais de là, on tire, je pense, un enseignement très important. Parce que ceux qui ont fait véritablement avancer l'histoire, ce n'est pas ces quatre personnages-là. C'est Yaakov, Moshe et David. Ça veut donc dire que si on veut ne pas pécher, il faut ne pas se mouiller. Alors quand on ne se mouille pas, on a des chances de ne pas pécher. Mais quand on prend des responsabilités, eh bien c'est évident qu'il y aura un péché. Mais ça vaut la peine. C'est-à-dire il faut avoir le courage de renoncer à l'immaculée pureté de ces personnages pour que l'histoire avance. Et bien c'est ça le courage de Yaakov, le courage de Moshe, le courage de David. Ils ont accepté de remplir des fonctions dans l'histoire qui certainement allaient les amener à des péchés, mais ils savaient que c'était nécessaire et c'est eux qui ont le mérite de fonder l'identité d'Israël. Un dernier point que je voudrais mettre en évidence, parce que je pense qu'il est important de respecter les temps puisque nous parlons de précision, donc il faut respecter les temps. Il s'agit, comme c'est pas votre sujet, pour
une raison.
Donc, une dimension importante de l'enseignement de la Torah, c'est la préoccupation de l'universel. Et là, Manitou avait un enseignement très important. depuis nos plus anciens ancêtres, depuis Ever, l'arrière-arrière-grand-père d'Abraham, il y a déjà une recherche de ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation du monde, le désir d'amener le bonheur pour l'humanité tout entière. Et ce désir a été transmis dans la famille de Ever jusqu'à Abraham et Nahor, et chacun à sa manière le faisait. Et quand on analyse les versets à la manière dont Manitou les analysait, on se rend compte qu'il y avait dans la famille d'Abraham plusieurs options pour réaliser l'universel. Et qu'une des tentations permanentes qui assaille la famille des Avot, la famille des patriarches, c'est la tentation de transformer l'universel en cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, fustigé par Manitou très souvent, qui était repris par Nahor et Lavan, et d'une certaine manière également par Yosef HaTzadik, consiste à considérer que la réussite de l'humanité passerait par la dispersion des Hébreux dans le monde. Cette tentation, qui est très forte, puisque même Yosef HaTzadik y a cédé, et puis même de grands maîtres du 19e siècle, je pense ici par exemple au Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était le fondateur de la néo-orthodoxie, qui considérait que le rôle du peuple juif, c'est de fonder des communautés parmi les nations, en particulier dans les nations de haute civilisation. Par exemple, pour prendre l'exemple de l'Allemagne où il vivait, il disait ben, le rôle d'Israël, c'est de vivre en exil et d'ajouter à l'Allemagne un peu de moralité et un peu de sainteté, de sorte qu'un jour les Allemands nous diront merci. Vous voyez, ça s'appelle être démenti par l'histoire, malencontreux. Mais enfin, d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec Yosef HaTzadik, qui a vu que la servitude allait commencer, et quand il a vu que ça allait mal, il a dit, avant de mourir, à ses frères, il leur a dit, « Pakod ifkod Elohim etrem, Dieu vous ramènera et vous amènerez mes ossements sur le mont Herzl. » Et donc, c'était... c'est une anticipation. Ouais. Oui, mais enfin, vous avez compris. Comme disait Manitou, vous comprenez ce à quoi je ne fais pas allusion. L'universel, et c'est ça l'enseignement de la Torah, passe justement par le regroupement. Le fait de fonder une collectivité nationale en Eretz Israël, dans laquelle l'identité d'Israël est rassemblée, c'est ça qui va permettre justement le rayonnement pour l'humanité. Tandis que lorsque l'on est dispersé parmi les nations, avec toutes les bonnes intentions du monde, on est finalement assimilé. On n'est pas forcément assimilé au point de disparaître de l'histoire, mais on est assimilé sur le plan mental. Finalement, il y a une infiltration de la spiritualité, de la civilisation dans laquelle on se trouve, qui fait qu'on est, d'une certaine manière, idolâtre, Oved Avodah Zarah. Et c'est pour ça qu'il y a cette insistance chez Manitou. Vous voyez, on peut très bien se tromper. Quand on parle de la mission universelle d'Israël, alors si on n'est pas précis, on ne comprend plus de quoi il s'agit. Ça me rappelle, j'étais il y a 2 ans dans la communauté de juifs de Toulouse, et j'ai rencontré là-bas des étudiants juifs de France, très sympathiques, on a fait le Shabbat ensemble, et puis bon, je fais mes discours à la Manitou un peu, enfin comme je peux, dans lesquels je parle de la nation d'Israël. Alors un étudiant en droit, brillant, me dit, mais enfin, vous parlez de nation d'Israël, mais le judaïsme c'est individualiste, non? Je lui dis, mais mon cher ami, où est-ce que tu as été chercher tout ça? Ben, il me dit, c'est écrit dans la Torah, non? L'ech, l'echa, va vers toi-même. Quand on oublie un verset, quand on oublie qu'il y a une suite à un verset, ben on oublie. Ce va vers toi-même dont parle la Torah, ça se passe finalement, et la haret asher harika, dans le pays que je t'indiquerai. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Mais vous comprenez à quel point c'est un travail de décaper les mentalités et de retrouver la précision de la Torah. Je vais prendre encore 2 minutes. Voilà, je vous promets, hein, l'inéder. On voit dans la paracha de Vayera, celle qui commence, que Dieu se révèle à Abraham après la circoncision dans les plaines de Mamré, à côté des arbres de Mamré. Et Mamré était un Cananéen qui, selon la tradition du Midrash, avait conseillé à Abraham de faire la circoncision. Alors, les commentateurs ne savent plus où mettre la tête. Comment se fait-il qu'Abraham, qui a reçu l'ordre de Dieu de faire la circoncision, a été prendre conseil d'un Cananéen? Est-ce qu'il faut la faire ou pas? Alors, si vous regardez dans le Sifté Chachamim sur ce verset, vous verrez là-bas une foule de réponses. Mais si on suit l'enseignement de Manitou, à mon avis, tout s'explique. C'est Mamré qui a proposé à Abraham de faire la circoncision avant que Dieu lui donne l'ordre. C'est-à-dire que les ordres de Dieu, les mitzvot, n'apparaissent dans l'histoire que lorsqu'il y a une première intuition de ça. C'est ce qu'on appelle Derer Eretz Kadma la Torah. Il faut d'abord qu'il y ait un développement de civilisation suffisant pour que la Torah soit donnée, pour qu'elle soit assimilable. Donc, c'est lorsque l'idée de la circoncision est apparue dans la conscience d'un Cananéen et qu'il en a parlé à Abraham, que Dieu est intervenu, il lui a dit « je vais en faire une mitzvah ». C'est vrai que c'était prévu à l'avance, mais il fallait qu'il y ait un substrat fondamental. Et cette idée donc du Derech Eretz, qui est préalable à la Torah, fait partie intégrante de l'enseignement de Manitou, qui est qu'on ne peut vraiment comprendre la Torah que si on sait qui est l'adresse humaine, quelle est l'identité humaine à laquelle cette Torah est adressée. Et donc il faut connaître ce qu'on appelle le Derech Eretz d'Israël, ce qui est l'intuition fondamentale de l'être juif, avant que la Torah soit donnée, et alors on comprend quel est le message de la Torah. Rien n'est plus grave que de prendre les enseignements de la Torah à nu, sans comprendre quel est le type humain à qui ces commandements sont adressés. Et ça, c'est le travail qui se fait dans des communautés fidèles à la tradition. Je pense par exemple à la communauté des Israélites de l'Oranie de Paris, qui, elle, s'est perpétuée l'identité, ce que Manitou appelait Torah Ta'av, la loi transmise par le Père, pour pouvoir recevoir mieux la Torah Harav, la Torah qui est transmise par le Maître. Et bon, vous savez, la plus grande des tentations serait de parler encore pendant très longtemps, mais je vais me retenir pour qu'on se revoie une autre fois et qu'on ait encore quelque chose à dire. Merci de votre attention. Merci.